sur France Inter.
Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve, que le ciel azuré ne vire au mauve, penser au passé à autre chose vaudrait mieux, fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve, se dire qu'il y a over the rainbow toujours plus haut, le soleil above, radieux. Vous l'avez compris, ce soir dans leur bleu, c'est Jane. On va commencer par une exclusivité de son nouvel album, La Javanaise.
J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain me voue à l'amour. J'avais envie de voir qu'on vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut être vécue sans amour. Mais c'est vous qui l'avez volé, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson.
« C'est la première fois que nous entendons ce texte de Gainsbourg chanté par vous, Jane, de manière symphonique. Cela fait maintenant plus de 30 ans que vous portez à la scène les textes de Gainsbourg. Vous les avez fait résonner sur différentes partitions, sur différentes tonalités. Et là, j'avoue, je l'écoute pour la première fois, mais que ça résonne magnifiquement avec l'orchestre symphonique. Tout cela est né d'un voyage à Tokyo après le tsunami et la catastrophe de Fukushima.
Oui, j'avais décidé de partir avec ma fille Kate. Et en fait, j'étais partie seule parce qu'elle allait partir un petit peu plus tard. Et il me semblait que j'avais été tellement gâtée par cette population qui ont fait des... De la sorte que j'ai chanté là pendant, je sais pas, une vingtaine d'années, Serge aussi, et puis sans Serge. Et dans un moment de détresse, ça me semblait le moins de choses de filer là-bas le plus vite possible. Donc, j'ai filé là-bas et j'ai la chance de pouvoir faire des petits concerts pour changer la tête des gens un peu. Et puis pour chercher des sous, parce qu'il fallait des sous pour toutes ces personnes qui se trouvaient au jour le lendemain sans maison, sans espoir même de pouvoir revivre dans leur maison. Alors, on m'a fait jouer avec ce pianiste, Nobu, qui m'a semblé formidable comme pianiste, mais je ne savais pas qu'il était également compositeur dans son propre droit et puis orchestrateur. Alors, quand plus tard j'étais en France et on m'a rappelé, Glusman m'a dit, mais t'as pas oublié que tu devrais partir aux États-Unis pour chanter? Ben, j'avais complètement oublié. Donc, je me suis dit, mais comment faire? J'avais fait déjà arabesque. Comment faire cette fois-ci? Donc, j'ai tout d'un coup pensé à Nobu et je me suis dit, on peut prendre aussi des petits bracelets faits par les femmes de Fukushima. Comme ça, les gens vont s'en souvenir en plus, vu son visage japonais et que tout l'orchestre était japonais. Alors, on était partis pour quelques dates et finalement, on a fait 2 ans. Et quand j'avais cette idée de Philharmonique, évidemment, Nobu est venu directement dans l'idée, s'il voulait bien, parce qu'à chaque fois, pour lui, c'est de partir 1 an, 2 ans, et comme il est compositeur lui-même, peut-être ça change sa carrière pas mal. Et Philippe Le Richomme, toujours lui, a travaillé 6 mois avec Nobu par téléphone, par Internet, pour choisir parmi toutes les chansons que Serge m'a écrites, lesquelles faire. Ils ont trouvé une vingtaine, ou peut-être même un peu plus, et Nobu a fait ses orchestrations divines.
Absolument. Alors il faudra attendre le mois de mars pour que le disque sorte, mais en attendant, on vient de vous écouter. Et c'est vrai qu'on a l'impression que plus le temps avance, plus on réalise que les textes de Gainsbourg, on le savait déjà, étaient poétiques, mais qu'il y a une structure, un rythme, un sens que vous dépliez progressivement dans le temps.
Ça me fait très plaisir parce que quand j'avais fait avec Hervé Pierre et Piccoli les textes de Serge il y a 1 an et pendant 1 an ou 2 ans nous avons fait ça, les gens après disaient « Ah mais on avait oublié à quel point les mots étaient formidables » parce que très souvent c'était sur un rythme qui emportait sur les mots ou c'était parce que c'était les musiciens Rasta ou encore avec les Américains et parfois ça passait à l'as. Et là, il redécouvrait le vrai talent et la beauté et la drôlerie aussi. Parce que Hervé Pierre, quand il se mettait à déconner, qu'est-ce que c'était drôle. Et quand Piccoli et Hervé Pierre faisaient des variations sur Marie-Lou, c'était absolument insupportable de érotisme. C'était génial. Alors, ça me faisait le plus grand plaisir quand les gens disaient « Ah, mais on avait oublié ». Et cette fois-ci, c'est la même réaction après. Les gens disent « Ah, mais des mélodies, on avait oublié des mélodies, la beauté de ces chansons ». Alors, mission accomplie, ça fait vraiment, vraiment plaisir.
Je me souviens d'un concert de vous, c'était il y a longtemps, Jane Birkin, c'était au Bataclan. Hélas, quand on dit ce mot de Bataclan aujourd'hui, on pense au drame qui a eu lieu, mais c'était bien avant. Et Gainsbourg était là.
Ah oui, il était là, c'est vrai.
Il vous regardait sans arrêt, il se disait, mais est-ce qu'elle va tenir jusqu'au bout du concert? Est-ce qu'elle va tenir?
Pas seulement ça, mais si les gens mettaient pas leurs briquets à briller, il les engueulait tout autour de lui. Et un jour, il y avait une panne, et il était tellement content parce que
de panne a duré quand même aussi longtemps qu'à la maison. Alors, Serge regrimpait vers la scène pour chanter avec moi. C'était une soirée absolument joyeuse. Mais c'est vrai que ça, c'était la première fois que je chantais pour du vrai. J'avais 40 ans. Je venais de faire la fausse suivante avec Chéreau. Sinon, j'aurais au théâtre. Je n'aurais jamais, jamais osé chanter pour du vrai si ce n'était pas pour Chéreau et d'oser aller sur scène. Alors, c'était toute une aventure et finalement, ça a changé ma vie. Et Chéreau avait changé ma vie. Et Serge, en chanson, enfin, en faisant des concerts, allait changer toute ma vie.
Oui, mais votre vie, elle avait commencé effectivement quelques années auparavant. Et dans l'enfance, vous aviez été bercée par des chansons, peut-être d'ailleurs déjà des berceuses. On écoute la maman qui s'occupait de vous, ô combien admirable, et qui chantait magnifiquement. Écoutons Judy Campbell.
Oh, taxi.
Where to, miss?
Berkeley Square.
What number?
Doesn't matter about the number. Just Berkeley Square. When true lovers meet in Mayfair, so the legends tell, songbirds sing, winter turns to spring. Every winding street in Mayfair falls beneath the spell. I know such enchantment can be, 'cause it happened one evening to me. That certain night, the night we met, there was magic abroad in the air. There were angels dining at the Ritz, and the nightingale sang in Berkeley Square.
Ah, ça c'est un cadeau. Ma mère, en fait, mon père était en train de faire ses aventures en cherchant les gens sur les côtes bretonnes, les nuits sans lune.
Pendant la guerre.
Qui étaient cachés derrière les rochers, oui, avec la résistance française. Et ma mère, pendant ce temps-là, était à Londres, où elle refusait d'aller dans les abris. Et elle chantait chaque soir « A Nightingale Sang in Berkeley Square », cette chanson. Et il paraît que les bombes sautaient de droite à gauche et elle était en train de chanter. Et puis, elle arrêtait, elle mettait son oreille dans sa main pendant le boom. Et puis, elle attendait que ça finisse. Et puis, elle continuait. Les gens étaient debout en rigolant. Tellement, elle était splendide. Elle a gardé le moral des Anglais, mais pendant toute la guerre. Donc, les deux ensemble, c'était quelque chose de beau.
Est-ce que vous avez su, très jeune, que vous aviez une voix particulière? Est-ce que votre mère vous a encouragée?
Non, pas du tout, parce que ma mère avait cette voix un peu graveleuse, un peu comme Lou, parce qu'elle avait chanté toute la guerre et elle a pété les cordes vocales qui, je pense que ça se remplit avec du sang et ça fait une sorte d'œdème. Et elle avait ça et puis elle a jamais voulu se faire opérer après parce que c'était c'était sa marque de fabrication. Mais ça fait qu'elle avait un tel timbre exotique et était tellement célèbre au théâtre que moi je n'osais pas me mettre en compétition avec ma mère. Et puis j'ai fait une comédie musicale quand j'avais 17 ans où John Barry, qui était le compositeur, n'avait pas du tout repéré que j'avais une voix qui valait quoi que ça soit. Il fallait juste que je chante une chanson en disant je dois, I must increase my bust, tu sais, je dois progresser avec ma poitrine. Donc j'étais une sorte de source de moquerie et c'était très bien, c'était très drôle comme comédie musicale. Mais il n'avait pas remarqué que j'avais une voix haute et ce n'était pas... C'était en fait Serge. Quand je chantais très haut un jour, je ne sais pas, peut-être dans le baignoire, il m'avait déjà demandé si je voulais chanter « Je t'aime moi non plus ». Et étant donné la compétition avec Mireille Darc, les filles qui arrivaient en disant « Ah, Serge, il me paraît que tu as une très très jolie chanson », je me suis dit « Oula, là je risque très gros » parce que j'imaginais que tout le monde se mettait dans une sorte de boîte de téléphone et c'était hautement érotique. J'avais entendu la version quand même extraordinairement chaude de Bardot. Alors, quand il m'a demandé cette question, j'ai dit oui, tout de suite, mais c'était surtout pas jalousie et crainte. Alors, J'ai chanté très très haut et une octave au-dessus de la version avec Bardot. Et de l'autre côté, Serge m'a fait chanter Jane B, très très haut aussi. Et c'est lui qui a trouvé cet avantage de chanter comme un garçon de chorale en fait. Et très près du microphone, comme lui il faisait d'ailleurs, où on entend presque respirer. C'était une technique et on passait tous... Tous les chanteuses ou les actrices qui faisaient chanter, ils les faisaient chanter de cette même manière. Mais c'était lui qui a trouvé qu'il y avait un intérêt dans ma voix.
Serge Gainsbourg était très proche de vos deux parents, de votre père et de votre mère. Il y a des photos qui en attestent. Et à un moment, je crois que vous avez même failli vous établir à Londres, rester à Londres. Pourquoi la vie s'est faite de l'autre côté de la Manche, finalement ?
Oh, parce que Serge ne supportait pas de rester à Londres très longtemps. Après une semaine d'anonymat, il ne supportait pas. Il était trop frustré, ça le rendait trop malheureux. Parfois, il y avait un ou deux Français sur le King's Road qui disaient « Salut Gainsbourg !» Ça lui mettait en joie. Et ça... Mais bon, après une semaine, c'était quand même beaucoup à lui demander de rester en Angleterre. Malgré tout ce qu'il trouvait de charmant, comme les pubs, les boîtes à lettres rouges, les bus rouges, les taxis noirs, malgré tout cette folklore, et mon père, ma mère aussi, mais mon père aussi, ils prenaient leurs somnifères au même moment, donc ils tombaient comme deux petits hiboux. Je dis, vous avez pris vos somnifères ? Non, ils disaient tous les deux. Ils étaient un couple absolument charmant. Mais mes parents étaient vraiment... adorable parce qu'il venait pour tous les vacances en France. Moi, j'avais acheté une toute petite maison, mais vraiment une maison de souris en Normandie. Il venait là, séduit par Serge, qui les mettait en valeur en plus, qui était formidable avec eux. Alors, j'ai gardé une petite maison à Londres qui était donnée par John Barry juste pour quelques années à cause de Kate. Et puis, on était virés parce qu'il pouvait prouver qu'en fait, je faisais ma vie à Paris. Rue de Verneuil.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous êtes toujours excusé d'exister, comme si tout vous était arrivé et que c'était trop ?
Ben, en fait, tout s'est arrivé par accident. Donc c'est difficile à se prendre au sérieux quand il y a eu une accumulation d'accidents ou des accidents. Et puis parfois, je faisais preuve d'une certaine... C'est même pas courage, parce que je pense que je suis totalement... Tu sais comment ça s'appelle quand on se rend pas compte du danger? Alors, on n'a pas tellement de mérite parce que c'est même pas du courage, c'est insouciance. Et quand j'ai fait des choses comme, par exemple, de faire les pièces avec Chéreau, c'était parce que il y avait toujours une raison personnelle ou avec Chéreau, il croyait dans moi, donc il m'a demandé de faire. Et après, dès que j'avais dit oui, j'aurais fait n'importe quoi pour qu'il ne soit pas déçu en moi. Et ça, pour le coup, ça a toujours été le cas. C'était le cas avec Serge, c'était le cas plus tard avec Jacques Doyon, quand je faisais des films difficiles comme La fille prodigue ou La pirate. C'est vrai que j'étais prête à tout pour lui montrer que je méritais le rôle et que j'étais prête à me casser les jambes s'il fallait pour l'épater.
Oui, mais c'est comme si, Jane Birkin, vous ne croyiez pas à vous-même et comme s'il fallait des personnes extérieures à votre monde habituel qui vous encouragent à être ce qu'ils vous demandent. C'est ce qui s'est passé avec Serge Gainsbourg, c'est ce qui s'est passé aussi avec Patrice Chéreau. Au moment où Patrice Chéreau vous a demandé de venir au théâtre pour Marivaux, la fausse suivante, eh bien, il y avait avant, déjà vous existiez dans le cinéma, vous aviez tourné dans Blow-Up d'Antonioni, dans La piscine avec Alain Delon, de Jacques Deray, etc. Il y avait déjà toute une carrière. Mais non, il vous faut toujours quelqu'un qui croit en vous pour que vous puissiez être à la hauteur de ce qu'il vous demande.
Oui.
Bon.
Oui. Oui, je deviens mieux, en plus, quand je veux épater quelqu'un. Je suis capable des choses pas mal du tout. C'est vrai.
Mais je pense que vous attirez des personnes qui vous ressemblent, c'est-à-dire qui sont extrêmement timides et pas sûres d'elles, et que dans cette espèce de compétition de timidité, il se passe quelque chose d'organique et qui va donner des choses magnifiques. Je vous propose qu'on entende Patrice Chéreau, qui va parler de sa première audition au théâtre et de sa passion pour le théâtre.
Je suis rentré en scène et ils ont ri, tous. C'était ma première audition. Mais j'avais une botte secrète, si j'ose dire. C'est que j'avais fait de l'escrime, qui est un sport que personne ne faisait. Et donc, c'était une pièce où il y avait des duels à régler. Donc, ils ont posé la question, qui fait de l'escrime? Et j'ai levé la main. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait mes premières mises en scène. J'ai fait des duels. J'ai réglé des duels. Non, mais après, c'était ridicule. J'ai arrêté de faire des duels, j'ai arrêté de faire de l'escrime, qui est le seul sport que j'ai jamais fait de ma vie. Mais je ne sais pas pourquoi. Il y a deux choses dans ma vie que j'ignore. Pourquoi j'ai fait de l'escrime? À part que la réponse serait probablement parce que mon frère en faisait. Les plus âgés. Et pourquoi j'ai fait de l'allemand première langue, je ne le sais pas non plus. Mais les deux ont servi.
Et pourquoi vous avez fait du théâtre?
Je ne crois pas que je le sache. J'ai pensé que j'étais bien, c'était bien à ma place. C'était beaucoup mieux que dehors. On pouvait être timide, et on pouvait quand même monter sur un plateau. Non, je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai fait du théâtre. Je sais que j'en avais une envie folle, mais folle de faire du théâtre. Heureusement que ça a marché.
Oh, qu'est-ce que c'est charmant. Mais quelle personne séduisante. Mon Dieu, ce qu'il est si séduisant. Mais tu vois, au moins, lui, il savait que le théâtre, c'était sa place. Moi, non. Et quand il fallait faire ce premier concert au Bataclan, j'avais tellement peur, mais c'était au-delà de... D'ailleurs, ils ont fait leur pub du genre, est-ce qu'elle va oser, etc. J'ai dit, il ne faut pas exagérer, si les gens viennent pour voir si vous allez vomir, c'est quand même pas... ils n'ont pas payé pour ça. Mais c'est vrai que je ne trouvais pas que c'était ma place, et doublement pas ma place, quand j'ai entendu pour la première fois, parce que tu te retournes vers les musiciens pour les répétitions, et c'est sympathique, parce que vous êtes ensemble. Mais après, il arrive un moment où il faut que vous retournez, et vous êtes dos à eux, et face à cette public qui me terrorisait. J'ai toujours été terrorisée par le public. Ça me donnait le vertige d'être plus haut que eux. Les seules scènes que j'aime bien, c'est quand c'est à l'ancienne, quand vous êtes plus bas qu'eux. Et c'est plus comme le cinéma, c'est plus agréable quand même que d'être perché. C'est comme si quelqu'un te dit après un repas, monte sur la table et chante-nous une chanson. C'est quand même une horreur. Alors, pourquoi on le fait? Pourquoi on ose le faire? Pourquoi on le fait en répétition? Pourquoi on le fait 20 ans après, 25 ans après? Je ne sais pas. Je ne sais pas, sauf que quelqu'un a trouvé que ça serait bien. Et je veux prouver qu'ils avaient raison. Et là, en l'occurrence, c'est Philippe le riche homme qui me dirige, qui a des idées bien, qui m'évite de faire trop de conneries aussi, parce que je peux avoir des idées qui sont pas bien du tout. Et là, mon seule obsession, en fait, c'est pas du tout comme je suis habillée, tout ça, c'est d'aucune importance. C'est juste la voix. Donc, je vis dans une panique de perdre la voix, de pas sortir, de rester et me toufler dans la chambre d'hôtel. C'est pas un vie super marrant pour les gens autour de moi, parce que c'est vraiment un vie de couvent. Pendant que vous tournez, mais le bonheur d'aller dans les pays des autres et voir comment ils vivent, ça j'aime bien. Ou j'aime bien faire des concerts où personne que tu connais va venir. Donc, dès que c'est sorti de Paris, ça c'est génial. Quand vous allez, je ne sais pas, il y a des coins un peu perdus de France, ça j'adore. Ou d'aller dans les endroits où c'est un petit peu compliqué pour y aller, de pouvoir chanter dans les, je sais pas, dans les hôpitaux, par terre, à Haïti, avec un vieil don qui dit « Alors, vous êtes qui ?» J'ai dit « Je viens chanter dans cet hôpital. » Elle a dit « Ben, chantez alors. » Didou, didou. Ça, quand même, c'est des aventures que j'adore.
Tout à l'heure, Patrice Chéreau disait qu'il y avait au moins deux choses qu'il avait faites sans savoir pourquoi. L'escrime et apprendre l'allemand. Est-ce que vous avez fait des choses dont vous ignorez les raisons?
Ben, j'ai parlé français déjà. C'était quand même... Là, quand même, c'est nettement mieux. J'ai pratiquement un accent allemand à force de rouler des airs, il me semble. Et c'était pour Chéreau que j'ai roulé des airs pour la première fois. J'ai pris Claude Stratz et je me suis fait des leçons particulières, surtout sur les airs. Et avec la portion de Marivaux au tout début, je pense que j'ai compté qu'il y avait 25 R. Donc à la fin, j'avais la gorge et je me suis dit donc la gorge anglaise est capable de faire des R français. D'oser parler français alors que je ne parlais pas un mot, ça peut-être peut-être, mais c'était mon pays d'accueil, c'était un peu normal. Et puis, quand les gens rigolent maintenant de l'accent, etc., ça me vexe un peu, évidemment, parce que j'ai fait des progrès. C'est pas comme si c'était aussi mauvais qu'au tout début.
Mais c'est votre charme d'avoir cet accent. Faut surtout pas qu'il devienne allemand.
Il frôle, mais il reste bien, parce que les gens sur G7, quand j'appelle Pointe-à-Co, ils me reconnaissent, donc il doit avoir quelque chose de personnel, mais bon.
Et avec vos petits-enfants, vous parlez en anglais ou en français?
Ben, en français, en fait. J'adore parler en français, donc j'ai traduit les contes d'Oscar Wilde pour leur faire pleurer beaucoup en français, mais à vue, comme ça. Donc certainement très mal, mais c'était mieux que les traductions que moi j'ai brodées à mort pour que ça soit encore plus triste ou pour tirer leurs sentiments. Mais maintenant qu'ils vivent aux États-Unis, enfin ceux de Charlotte vivent aux États-Unis, ça c'est vraiment agréable. Je me rends compte que de parler anglais quand je suis avec mon frère et ma sœur, en fait on peut être très drôle en anglais. Et enfin, je suis très drôle en anglais. Et je me retrouve avec eux comme j'étais enfant et en fait c'est très agréable. En plus je peux pas faire de faute. Il n'y a pas de vouvoiement et je parle évidemment plutôt bien l'anglais. Et ça c'est un vrai plaisir. Donc maintenant que les petits enfants parlent anglais et même Ben est en Angleterre, ça va faire très très grand plaisir d'être avec eux, de parler anglais.
Vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez France Inter, vous écoutez le choix musical de Jane Birkin qui a choisi... Écoutez, cette chanson vous donne encore plus raison, Jane Birkin, de faire ce prochain album de Gainsbourg symphonique, parce que évidemment, on connaît cette chanson, on connaît l'ampleur qu'elle a eue, les conséquences qu'elle a eues, mais on oublie peut-être toujours un peu trop l'orchestration et la richesse de cette musique répétitive. Comment s'est élaborée cette idée? Et est-ce que vous mesuriez l'ampleur des conséquences de cette interprétation de la Marseillaise?
On a mesuré les conséquences quand on a reçu des bombes dans les hôtels. Donc là, on a mesuré avec les Américains furieux parce qu'ils étaient tout d'un coup sur les pelouses. Ils ne connaissaient pas Sèche ni rien du tout. Ils en avaient marre d'être tout d'un coup éjectés dehors. Et c'était sans doute des faux bombes. Mais arrivant à Strasbourg quand même, il a fait preuve d'un tel courage inattendu. Par là, je veux dire, il a dit au reste de rester dans le bus, qu'ils ne voulaient pas être responsables de leur mort. Ils avaient déjà assez de problèmes chez eux. Et il a foncé vers la salle, suivi par le Richomme et moi. Et là, on le regardait derrière la baffe. Et il a pris le microphone parce que ça l'avait agacé tellement d'annuler. Il ne voulait absolument pas partir sans avoir rien dit. Et là, il a pris le microphone et il a chanté la Marseillaise, mais le vrai. Donc les paras qui étaient dans les premiers quelques rangs ne savaient pas quoi faire. Ils se mettaient debout, ils enlevaient leur béret, ils essayaient. Et puis ils faisaient un grand bras d'honneur et on est parti dans le bus. Et arrivant à Paris, c'était la chose dont tout le monde parlait, c'était un vaste succès. Sauf que c'était suivi tout de même par Michel Droit, qui a cru nécessaire de faire un double page, je pense, en disant que Sèche portait tort à ses co-religionnaires. Je ne connaissais pas le mot avant, co-religionnaires. Et c'était illustré avec un profil de Sèche, buvant une bière, je crois, avec son profil et marquant par en dessus que le fait que Serge Gainsbourg existe, c'était comme de respirer du gaz dans un tunnel, comme si quelqu'un avait le pot d'échappement libre. Vous imaginez, c'est quand même des choses absolument effrayantes à lire. Très blessant d'abord, je crois. Et ensuite, il a parti avec un pirouette, comme toujours. Qu'est-ce qu'il disait sur Michel Droit? Droit comme un trombone ou droit comme... Je ne sais pas. Mais il trouvait des trucs drôles à dire. Et puis Michel Droit était sanctionné surtout. Tout d'un coup, c'était sur la page politique parce qu'on n'a pas le droit de dire des choses pareilles. Mais voilà, c'était... Quand il a chanté « Il est revenu de Jamaïque » avec la chanson, j'aurais jamais imaginé que ça fait un tel remue-ménage. Je pense qu'ils l'ont joué ici pour la première fois, à la Maison de la Radio. Le Richomme avait mis deux radios en concurrence et c'était un disque platine par la semaine d'après. C'était le plus grand succès qu'il a jamais eu. Parce que contrairement à ce que les gens imaginent, Melody Nelson et l'homme à la tête de chou n'ont pas vendu du tout. Pas du tout. 25 ans après, ils ont eu un disque d'or pour Melody, mais c'est tout. Dans ma tête de chou, non, rien. C'était un énorme succès.
Alors Jane, dans l'heure bleue, nous demandons à quelqu'un qui vous connaît, qui vous entend, qui vous écoute depuis pas mal de temps, de donner son avis. Nous avons choisi une chanteuse comme vous. Je crois que vous l'aimez beaucoup. Nous allons l'écouter. Elle s'appelle Marianne Faithfull.
Ah. How I know Jane? Well, I know Jane since we were both 17, I think. When she was in a play called Passion Flower Hotel, and I went with my mother to see her. And that's when I met her first. Yeah. I'm very fond of Jane. Why? Because she's a very nice woman. Jane Birkin is a very nice woman. Well, what I like is the whole thing. I like her music. I think what she did with Serge Gainsbourg was fantastic. and not easy at all, but she did it. But also, she's very much a humanitarian and believes in helping people. Jane has gone through a lot, you know. She's definitely suffered a lot. And she's handled it with great dignity and elegance, I think, which is admirable. How are you, darling? I hope you're doing okay. That's my only question.
No, oh, sweetheart. I hope she's doing okay. Ah, elle va bien. J'espère. Merci. Merci, merci.
Vous avez conservé des amitiés comme ça avec Marianne Faithfull, avec Simon McBurney. Il y a toute une constellation comme ça de d'artistes qui continuent à vous nourrir. Et vous n'êtes jamais blasé. Je vous rencontre souvent au théâtre. Je sais que vous écoutez beaucoup de musique. Je sais que vous lisez énormément. Comme si vous étiez toujours en recherche. En recherche de quoi, Jane Birkin?
Je trouve que c'est peut-être les arts en général sont vraiment des remèdes contre la tristesse. Je pense que c'est s'il y avait une chose que j'aimerais faire, c'est pour ça que j'aime beaucoup faire ces petits concerts parfois à droite à gauche, mais c'est vrai que si tu peux faire penser à autre chose aux gens pendant une heure et demie. Je pense que ça fait énormément de bien, rien que de pas penser à autre chose. Quand j'étais particulièrement triste, je m'en souviens que je voyais 3 films par jour avec Gabriel. Je partais au théâtre le soir, j'ai vu absolument tout et ça m'emmenait ailleurs. Et parfois j'ai un regret que c'est pas plus accessible pour d'autres personnes. J'aimerais prendre la main à plus de personnes pour dire que dans les théâtres nationaux, par exemple, parce que moi non plus, je ne savais pas que ça existait. Moi non plus, je suis pas un connaisseur de grands auteurs. Il m'a fallu aussi qu'on me prenne ma main. J'ai Michel Fournier qui a pris ma main, qui m'emmenait avec lui parce que c'était son métier de voir toutes les pièces de théâtre et il m'a appris tellement de choses. Et si c'était possible à l'hôpital à Vicennes où je passe souvent beaucoup de temps, j'ai le temps pour voir que si c'était possible, j'avais une idée de demander au Louvre de faire des photocopies de absolument tous leurs chefs-d'œuvre. Voilà, si c'était possible, pendant que vous attendez misérablement les X-rays ou des radios ou des toutes sortes de misères, si c'était possible de contempler le visage de Rembrandt, vieux homme, vieil homme, eh bien, c'est un soulagement, c'est un autre être humain qui a souffert lui aussi, et des beautés que moi je peux voir parce que quelqu'un a pris ma main pour m'embarquer, pour voir des expos qui sont magnifiques. Ben, tu as envie que les autres le voient et photocopie, ça coûte rien du tout. Donc si on le punaise partout dans les hôpitaux et puis si on les vole, tant mieux. Et je pense que c'est quelque chose qui est bon, qui est bon pour le moral. Mon frère avait une longue photocopie de Hieronymus Bosch. Donc, assez terrifiant, les oreilles transpercées par un aiguille, etc. Mais il le mettait très, très bas. Comme ça, tous ses enfants, quand ils trottaient de chambre en chambre, ils avaient tout ce chef-d'œuvre en longueur qui faisait tout le long. Eh bien, nous aussi, on se mettait à 4 pattes pour regarder le tout. Et c'est ça que j'aimerais faire, que j'aimerais rendre plus disponible pour les autres personnes parce que moi, ça m'a aidé énormément. Et je pense que les pièces de théâtre, le cinéma, les expositions sont vraiment, vraiment nécessaires pour la tête, pour garder sa sanité pour partager avec les autres. Quand tu vois un truc bien, tu as une envie, c'est de retourner avec quelqu'un que tu connais, que tu aimes, un des enfants, des petits-enfants ou des connaissances. J'avoue que c'est une petite flatterie aussi. Quand tu vois une pièce de théâtre et tu embarques quelqu'un pour le voir et après il dit « Ah, quelle merveille. C'est vrai que c'est très gratifiant, mais c'est ce que j'aurais aimé faire.
Vous pensez, Jane, que la soif de beauté, elle est plus importante en vous maintenant, et que la souffrance, finalement, elle fait entrevoir la vie autrement et exiger de plus en plus la recherche de cette beauté, qui est une exigence d'ailleurs.
J'ai compris la nécessité. Peut-être je n'avais pas compris trop avant. Et encore à l'hôpital, je me rendais compte que je pouvais faire ça au moins, l'histoire des photocopies. Mais pour le théâtre, l'abrutissement avec lequel je partais les journées entières pour s'évader dans les histoires des autres, ça fait énormément de bien. C'est un vrai bien pour n'importe qui, d'ailleurs, je pense. Pour n'importe qui.
Nous allons écouter un extrait de votre unique film. J'espère qu'il y en aura d'autres. Il était très beau. On écoute un extrait de Boxeuse de 2007.
Personne ne parlait de moi. Ni avec moi.
Ah non, c'est trop injuste, Camille. Tu fais du tout bien. Pourquoi tu voulais qu'on parle de toi?
Merci, maman.
Et tu as été parfaite. Et aimée par deux pères.
Juste un peu trop.
On a toujours tout faux, hein?
So we both got it wrong.
Elle a essayé. Merci.
Depuis quand on a des bons points pour avoir essayé?
J'ai cru en vous moralement, professionnellement. Pour ta première expo, j'ai gardé toutes tes coupures de presse pour montrer à tout le monde. Je me vantais même.
T'exagères toujours. T'exagères tout le temps. Mon expo, c'était pas mon expo. C'était une expo. Je faisais partie d'un groupe.
J'étais si fière.
J'avais si honte. Tu savais même pas quel tableau j'avais peint. C'était tout de suite Camille, elle fait un malheur en Italie. Bah, c'était pas l'Italie, c'était l'Espagne.
Incroyable.
Oui, vrai, hein. Vrai, je pense. Je pense que... Oui, pas unique. J'aimais ce film parce qu'il me semblait qu'il n'avait pas beaucoup de films où une mère se mettait en doute, en fait, de si les choses se sont faites d'après ce qu'elle a cru. Et en plus, je faisais venir les pères pour dire c'était pas du tout comme ça. C'était pas comme ça. Tu n'étais pas partie dans la nuit avec le petit dans un panier. Tu n'étais pas. Et je trouvais que c'était très juste d'avoir l'autre point de vue. Et comme ma mère, qui était jouée par Geraldine Chaplin, me reprend en disant « tu étais gay, tu étais... » Voilà, c'était la personne qu'on aimait, pas cette personne torturée. Comme... C'était tellement vrai, c'est ce que ma mère m'avait dit. J'avais mis beaucoup de moi dedans, mais aussi des critiques que mes enfants m'ont jamais fait. Petite Lou m'a jamais sorti des trucs pareils. Mais moi, je me les sortais à moi-même. Je me mettais en question. Oui, c'était une autocritique. Et sévère. Et je trouvais que c'était intéressant, vraiment. Et Lou avait joué à la perfection cet enfant qui n'était pas elle. Elle jouait le rôle de... Alors, si on veut, c'est bien inspiré par Charlotte, alors. Et... Oh, quand elle m'a donné son tout, alors là, j'ai compris les mettre en scène. Hein, parce que quand vous avez une actrice devant vous, et vous avancez, on n'avait pas assez d'argent pour avoir un travelling, mais on avançait vers elle, avec une sorte de trolley, elle se mettait à pleurer pour la première prise, tout de suite, avec un monologue où elle disait « personne ne me regardait, j'étais sur la touche », et elle brisait le cœur. Et ça, je trouvais ça, quand on a ce cadeau d'une actrice, il faut absolument l'accueillir et on est tellement plein de gratitude qu'on vous donne tant. Et dans ce film, j'ai vraiment eu Piccoli comme père. Comment faire mieux? Et Geraldine Chaplin pour mère. Et puis j'avais John Hurt. Mais j'avais Jackie Cario. J'avais Lou. J'avais la petite Adèle. Alors, qui avait 12 ans, et Natacha Régnier, qui jouait ma fille aînée, et qui était d'un touchant, elle aussi. Non, j'étais vraiment contente de ce film et de les avoir tous capturés. Et il me semblait que c'était l'histoire de beaucoup de mères. De beaucoup de mères.
Il y aura d'autres films, il y aura des textes de vous aussi, Jane, parce que je sais que vous écrivez, je sais que vous prenez des notes, je sais que vous êtes une artiste, mais voilà, vous servez les autres.
Non, je vais peut-être publier mes journaux que j'ai tenus de 12 ans jusqu'à très tard. Et ils sont marrants parce qu'il y a des anecdotes, les pique-niques avec Serge, inimaginables, du normal, pas snob, quoi. On était dans des toutes petites maisons, il faisait gaffe aux des personnes qui travaillaient dans les champs à côté, qui savaient abîmer leurs pouces. Il était drôle. Alors, pour ces petites révélations-là, ou ces petits entreperçus, je crois que ça vaut vraiment le coup.
Et donc, vous allez repartir en tournée?
Ah oui, quelle chance de pouvoir s'évader. C'est une chance, hein?
Alors, je me souviens d'une des avant-dernières tournées où vous étiez en jean, Jane, avec un petit pull marin, mais qui était juste au-dessus du nombril. Et par moments, on voyait votre nombril. J'espère qu'on va continuer à le voir pendant que vous chantez. Tout ça était très étudié, c'était mine de rien.
Ah bon? Ah bon? Je crois que je vais éviter de montrer le nombril pour le prochain coup. Ça va foutre mal devant l'orchestre philharmonique. On va plutôt regarder eux que moi, je pense. Que moi. On va bien m'entendre, hein, par contre. Avec une voix nickel, j'espère.
Bah, elle a toujours été nickel, la voix.
Bon, tu sais, j'ai fait le premier de cette tournée. J'ai fait en Canada. Et il m'est arrivé le cauchemar de tous les chanteuses, je pense, c'est que j'ai ouvert ma bouche pour commencer les premières chansons et il n'y a rien qui est sorti. Oh, rien. J'étais prise d'une soif, quelque chose d'épouvantable. J'ai essayé d'ouvrir les bouteilles. J'avais le micro, je ne savais pas où le mettre. Je le fourguais entre mes jambes. J'ai essayé de dévisser les bouteilles. Et je ne sais pas ce qui m'a pris parce que j'ai perdu tout le contrôle de tout. Je ne savais plus où j'étais. Ni de ce qui allait sortir, ce qui était encore pire. Donc, le deuxième jour, comme j'avais été assez malade, donc j'ai quand même passé à l'hôpital après parce que c'était des bronchites, des choses comme ça. Ils m'ont permis de faire le show le jour après. Mais le premier, quelle catastrophe, mon Dieu. Je voulais tellement faire le deuxième pour que je me fasse pardonner par l'orchestre philharmonique de Montréal, qui doit bien se demander avec qui ils étaient. Ah non. Donc après ça, en fait, les choses ne peuvent jamais être à ce point mauvais.
Ben bonne chance. Bonne chance, Jane, et puis bon anniversaire.
Ah oui. Ah oui, ah oui. On va s'enfuir pour ça.
Et puis vous avez choisi, et c'est comme ça qu'on va se quitter, avec cette très belle chanson d'Alain Souchon. D'Alain Souchon, et si en plus il n'y a personne, pourquoi vous l'avez choisi?
Nécessaire, nécessaire. Il avait joué ça après l'attentat au Bataclan. Ici même, je crois, dans le très belle nouvelle salle. Je l'avais déjà adoré, mais là, il me semblait que c'était... Oui, que c'était vraiment nécessaire. Contre toutes les hystéries possibles. Magnifique. Magnifique.
Abderrahman, Martin, David. Et si le ciel était vide? Tant de processions, tant de têtes inclinées, tant de capuchons, tant de peurs souhaitées, tant de démagogues, de temples, de synagogues, tant de mains pressées, de prières empressées, tant d'angélus qui résonnent. Et si en plus y a personne? Esther, Amman, Martin, David. Et si le ciel était vide, il y a tant de torpeurs, de musique antalgique, tant d'antidouleurs dans ces jolis cantiques. Il y a tant de passion et tant de mystères, tant de compassion et tant de revolvers, tant d'angélus qui résonnent. Et si en plus y a personne, Baruch Hashem, Inshallah, Hare Krishna. Alléluia. Abderrahman, Martin, David. Et si le ciel était vide, si toutes ces balles traçantes, toutes ces armes de poing, toutes ces femmes ignorantes, ces enfants orphelins, ces vies qui chavirent et ses yeux mouillés, ce n'était que le plaisir de zigouiller. L'angélus qui résonne. Et si en plus y a personne, et l'angélus qui résonne. Et si en plus y a personne, et l'angélus.
Merci encore Jane Birkin. Vous avez écouté Jane dans la javanaise version Gainsbourg symphonique. Jane a choisi Alain Souchon et si en plus y a personne, et aux armes de Gainsbourg. L'heure bleue a été réalisée par Laurent Thomas, préparée par Élodie Royer et Anne-Sophie Dazard, avec à la technique ce soir Pierre-Yves de Rolin. Merci à toutes et à tous. Et après les infos, vous retrouverez notre very good boy pour a very good trip. Je veux parler bien sûr de Mishka Assayas.